cette route des patriarches là, qui circule sur la crête de l'anticlinal de la montagne de Juda qu'on voit là-bas à gauche. On descend vers l'ouest et puis nous allons traverser la Chefela, la région basse, les collines que vous voyez là sur la droite, et puis alors aller sur la plaine côtière, et puis là nous allons rencontrer une route qui va nous mener assez rapidement vers la frontière sud de Canaan, où nous allons camper ce soir dans le désert de Tsin. Et je crois que ce sera intéressant de prendre conscience de quelques grandes données géopolitiques qui commandent toute l'histoire sainte à longueur de millénaires. Mais vous, cette terre a toujours été une terre de passage entre les deux grandes civilisations qui se créent au bord du Nil, là-bas au sud, en Égypte, et puis au bord du Tigre et de l'Euphrate, là-bas au nord. Et toujours, elle a été la proie des rivalités de ces superpuissances du nord et du sud. Ces deux superpuissances sont reliées par deux grandes voies dont on va parler souvent. La Via Maris, on en parle dans l'Évangile. Où est-ce qu'on en parle dans l'Évangile? Terre de Zabulon, terre de Nephtali, Galilée des Goïms, pays de Transjordan, voie de la mer. Enfin, elle arrive d'Égypte, elle enfile la plaine côtière, elle se rapproche des montagnes où nous sommes pour éviter la région des marécages et des forêts qu'il y avait là-bas dans l'Antiquité. Et puis ensuite, elle traverse la passe de Megiddo pour éviter le Carmel. Elle prend le lac en tangence au nord, à Capharnaüm. Ensuite, elle traverse le Jourdain sur un bouchon volcanique qui est au nord du lac. Tout ça, on le verra par la suite. Et puis, elle arrive à Damas. Elle va vers la Mésopotamie en suivant le croissant fertile. Et il y a une autre voie dont on parlera, alors qui circule sur les hauts plateaux, qui domine la dépression de la Araba, de l'autre côté, à l'est, là-bas, qu'on appelle la voie royale. Elle circule sur les hauts plateaux là, de Madian, Édom, Moab, Ammon, Galaad. Et puis, elle rejoint la Via Maris à Damas. Et cette terre est une terre de passage, toujours disputée entre les grandes superpuissances du Tigre et de l'Euphrate d'une part, et puis du Nil d'autre part. Mais alors il y a une période où ces deux superpuissances ont été simultanément en décadence. Et alors deux peuples sont arrivés ici, et chose curieuse, actuellement on retrouve ces deux noms, les Palestiniens, les Philistins. Vous savez que Palestinien vient de Philistin, et puis Israël. D'une part, vous avez les Philistins, nous avons traversé leur pays là-bas, ils doivent venir de Crète. Bon, ce sont des Grecs. Et on parle toujours dans la Bible de Sarné-Pelishtim, et beaucoup de philologues pensent que Seren, Seranim en hébreu, c'est l'équivalent de Tyrannos, un nom grec, tyran, Tyrannos. Alors ces envahisseurs là, venant de Grèce, ont essayé de débarquer en Égypte, ils ont été repoussés et ils ont débarqué sur la côte là-bas, que nous apercevons, la côte de la Méditerranée. Et alors, de l'autre côté, à la même époque, après l'aventure dont nous allons revivre un petit peu les étapes, après cette 40 ans d'errance qui nous sont décrits dans les livres de l'Exode et puis des Nombres, arrive, en traversant le Jourdain en face de Jéricho, Israël. Et chose curieuse, parce que ces deux noms restent marqués. Encore au temps du mandat britannique, tout le monde était palestinien. C'est l'administration romaine qui a adopté cette appellation pour qu'on ne parle plus d'Israël. Vous savez que les Juifs étaient très turbulents dans l'Empire romain. On parlera de la première révolte, de la deuxième révolte, même de la troisième révolte. Alors Hadrien a voulu mettre un terme à ça, effacer complètement le nom d'Israël et adopter dans l'administration romaine l'appellation de Palestine, Palestina prima, Palestina secunda, Palestina tertia. Et tout le monde était encore palestinien au temps du mandat anglais. Alors la naissance de l'État d'Israël, après toutes les aventures que vous connaissez, l'extermination méthodique des fours crématoires en Allemagne, des rescapés qui arrivent ici au temps des Anglais, et puis la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Alors, en contre-coup, on commençait à prendre conscience de leur identité nationale, la population autochtone qui a repris le nom de Palestiniens. Et on voit ces deux populations actuellement qui s'affrontent plus que jamais. Sentez ces grandes données géopolitiques là, qui dominent le temps. Mais alors, il y a un contraste assez étonnant. C'est que d'une part, on ne voit pas très bien la continuité entre les Philistins et les Palestiniens actuels. Et même on étonnerait beaucoup de Palestiniens en leur apprenant que leur nom vient des Phéniciens. Ils l'ignorent absolument. Et puis alors, il n'y a pas de continuité. Et puis en même temps, quand on va traverser ce pays des Philistins, si on entre dans un musée, on voit des poteries polychromes, on voit des sarcophages anthropomorphes, on voit des ruines assez imposantes, mais il n'y a aucune littérature, aucune inscription philistine. Et le contraste est assez étonnant quand même. De l'autre côté, on a un peuple dont la continuité est la plus étonnante. Je ne suis pas spécialiste de religion comparée, mais enfin, je crois qu'il y a une continuité tout à fait extraordinaire de ce peuple qui est là, qui dure, malgré tous les efforts qu'on a fait pour lui faire abandonner son identité, toutes les persécutions qu'il a subies au cours de l'histoire, malgré tous les efforts que lui-même a fait pour se débarrasser de son identité. Il est là. Et puis alors, on peut dire, c'est vrai, quand on regarde les statistiques, qu'il n'a jamais été vraiment maître dans ce pays très longtemps. Pas autant de David, de Salomon, et puis autant des Asmoniens, successeurs des Maccabées. Mais alors, il a avec cette terre un lien mystérieux. Il a élaboré ici une littérature, et vous en faites de plus l'expérience, qui s'enracine dans ce pays. On la comprend vraiment que quand on la lit dans ce pays. Saint Jérôme disait qu'on ne comprend la Bible que si vraiment on vient parcourir cette terre sainte. Et cette littérature qui s'est élaborée ici a fait la conquête du monde. Je crois que de tous les livres qui sont lus dans le monde, je crois que c'est la Bible qui remporterait de loin dans toutes les traductions qu'on a pu en faire, cette littérature qui est née ici. Vous sentez, c'est tout à fait extraordinaire. Vous connaissez l'histoire de cet empereur d'Allemagne, peut-être plus un Frédéric quelconque, un Guillaume, qui faisait de la théologie et qui un jour a demandé à son conseiller théologique, là, pourriez-vous pas me donner une preuve un peu consistante de l'existence de Dieu ? Le conseiller théologique, après avoir réfléchi, a dit « L'existence de ce peuple qui traverse la durée, qui s'impose à nous maintenant plus que jamais, et qui a manifestement avec cette terre, on ne peut pas le nier, un lien tout à fait extraordinaire. » Et alors, je crois que nous, chrétiens, ça serait complètement idiot de nous priver de cette connaturalité. C'est pas moi qui parle, c'est Saint Paul dans l'Épître aux Romains, « Oi catafusim ». Cette connaturalité que ce peuple qui retrouve cette terre et grâce auquel on retrouve des spontanéités qu'on a souvent perdues. Non. Et moi j'avoue que c'est à l'école des guides et puis en me mêlant à une société qu'on appelle pour la protection de la nature que j'ai retrouvé une espèce de connaturalité et avec la terre et avec la langue qui font que j'ai trouvé ici des choses que j'ai jamais apprises ailleurs dans toutes les universités, facultés par lesquelles je suis passé. Et parce qu'il y a quelque chose. Je crois que nous chrétiens, grâce à eux, nous pouvons aller puiser la sève à la racine plus profondément. Et peut-être justement pour inventorier mieux toutes les merveilles dont nous sommes dotés à l'époque des accomplissements dans le Christ, grâce auquel nous faisons une lecture chrétienne de la Bible, comme les disciples sur la route d'Emmaüs. Passant par Moïse, par les prophètes, il leur interpréta, dit Herménocène, il leur fit l'herméneutique. Il y a deux mots, donc on emploie toujours, qu'on devrait un petit peu revaloriser, le mot exégèse et puis le mot herméneutique. Le mot exégèse, il vient du prologue de Saint Jean. Dieu, personne ne l'a jamais vu, celui qui est relation vers le Père, comment traduire ce mystérieux prose, l'a raconté, et j'ai lu dernièrement un article très intéressant, nous a conduit vers, exégésato, je crois que la première signification du mot en grec, c'est conduire vers. Puis alors le deuxième mot, alors il est dans Saint-Luc, ce fameux récit extraordinaire des disciples d'Emmaüs, passant par Moïse et par les Écritures, il leur interpréta, dit Herménocène, ce qui le concernait dans les Écritures. Bon, ce sont les données géopolitiques comme ça qui permettent de respirer un petit peu en dehors de cette sous-culture journalistique là, dont nous sommes victimes. Respirons un peu au-dessus et puis essayons de nous promener un peu dans ce pays comme le Christ. Regardez cette désinvolture qu'il avait par rapport aux préjugés de son temps. Il avait des amis partout. Les Samaritains, le centurion, il avait peut-être des terroristes dans son groupe d'apôtres. Qu'est-ce que c'est que ces Iscariotes et puis ou bien le Judas le Zélote.
Les Zélotes, oui.
Les Zélotes, oui. Il ne regardait pas les étiquettes qu'on met sur les gens, les étiquettes que les gens se mettent sur eux-mêmes, mais à travers toutes ces opacités, il rejoignait le nom propre que nous avons tous dans le cœur de Dieu. Et cheminant dans ce pays, il rencontrait des gens, indépendamment de toutes leurs appartenances sociologiques, linguistiques, raciales, nationales. Et c'est comme ça qu'il faudrait lire la parole de Dieu.